Écoutez, nos dernières méditations porteront, comme nous l'avions envisagé, sur la responsabilité. Même si les occasions vont se rendre un peu décousues, c'est bien de garder la responsabilité. Papa Carolus, le pape Carole, le pape Postina avait passé sa vie à expliquer ça, à expliquer la responsabilité, la signification responsable du corps. Le pape Carole était un pape qui, semble-t-il, avait été sanctifié les soins maternels, si on en croit le témoignage de sa mère. Et en ce sens, il avait un sens assez fort de la connaissance intérieure du corps. Et aussi un sens presque spontané, instinctif, avec la grâce de Dieu, bien sûr, de la connaissance de la personne. Alors, c'est pas étonnant. Du coup, il a été très... Il a perçu, comme chacun d'entre nous, nous percevons, que l'homme, la femme, l'enfant, sont spontanément faits pour courir, pour vivre, etc., mais qu'il bute sur une difficulté énorme. Et cette difficulté, bon, elle vient du péché originel, c'est bien. Et parmi les conséquences du péché originel, il y en a deux. La vanité, le fait que du coup on ne perçoit plus l'essentiel, c'est à cause de la vanité. L'orgueil aussi, qui fait qu'on est un peu plus distant de Dieu. Et enfin, la troisième conséquence du péché originel, la concupiscence, fait qu'on ne connaît plus, on ne maîtrise plus les sources vivantes spirituelles du don de soi à travers les profondeurs intérieures de notre personne. La concupiscence fait que nous ne voyons plus les sources du don. Notre corps, j'allais dire, nous trahit par la concupiscence. Alors qu'au contraire, le corps, l'âme et l'esprit sont faits, au contraire, non pas pour nous trahir, mais pour être comme le trépied de notre course. Voilà. Et c'est sûr que, bon, on est tous, chacun d'entre nous, on voudrait se jeter dans les bras de Dieu, dans les bras du prochain, dans les bras de la pureté, de l'humilité, de la générosité, et de la communion, de la gratuité, de la contemplation, du mariage, du don de soi, de l'accueil, etc. Enfin bref, de tout ce qui fait qu'un être humain est un être humain, quoi. On voudrait tout ça, mais on bute. Il y a quelque chose qui fait que ça ne passe pas. On bute sur des limites, et ces limites ne sont pas liées à la création de Dieu. Elles sont liées à ce fait que nous avons un mal fou à gérer cette création de Dieu, parce que nous sommes vraiment participants d'un processus qui appartient au corps mystique du péché, et par lequel il y a comme une espèce de refus d'être nous-mêmes à cause du péché, à cause des conséquences du péché. Et bon, pour moi, la caractéristique, enfin, un des éléments les plus évidents de cet obstacle, c'est la différenciation sexuelle. Le fait qu'on soit masculin ou féminin opère bien évidemment quelque chose qui fait que on ne maîtrise pas la situation du don qui nous est fait dans la création de Dieu, dans l'existence qui est la nôtre. Pourquoi ? Parce qu'on ne la maîtrise pas parfaitement. Non seulement on ne la maîtrise pas, mais c'est elle qui, quelque part, nous arrête. Alors le pape Carole était très très conscient, très très... a pensé que toute sa vie, il a pensé qu'il fallait quand même ouvrir une porte pour dire comment la révélation et comment la pratique aussi, l'expérience toute simple, permettait de sortir de cette espèce de handicap dans lequel on était mis à cause de la fausse pudeur, à cause de la honte, à cause des conséquences du péché originel, de ce fait que, bon, homme, femme, nous n'étions pas, on butait sur quelque chose qui, au contraire, devrait être pour nous une espèce de catapulte, une espèce de centuple de toutes nos aspirations. Nos aspirations sont un peu comme la semence qui est inscrite par Dieu dans notre corps. Et quand c'est une bonne terre, c'est-à-dire lorsque la signification sponsale du corps est en place, alors elle produit le centuple. Nos aspirations sont centuplées dans la signification sponsale du corps. Encore faut-il que la signification sponsale du corps, c'est-à-dire la pleine maîtrise de soi dans la différenciation sexuelle, en raison précisément d'une pleine possession de soi en Dieu, eh ben, qu'elle soit mise en place à cause du péché originel. Cela n'est possible qu'avec la rédemption. Ce n'est possible qu'avec Jésus. Et le pape, donc, vous le savez, donc en septembre 1979, a commencé tout un enseignement sur la responsabilité. Il a donné, au fond, tout un éclairage, quoi, toute une voie d'accès pour reprendre possession de nous-mêmes dans notre corps, de manière à devenir des personnes, dans la plénitude du don de la personne. De manière à ce qu'on retrouve, au fond, d'une manière concrète, au-dedans de nous, par la grâce, cette liberté victorieuse de la pudeur, de la fausse pudeur, victorieuse de ce qu'elle dit de plus originel, de la réduction à l'objet, victorieuse de la honte et victorieuse aussi, bien sûr, de l'égoïsme et de l'adultère. À chaque fois que nous utilisons notre corps dans un sens qui est contraire au don gratuit, au don virginal de nous-mêmes, eh bien, nous produisons un adultère. Et cette espèce de victoire sur l'adultère, qui est justement le retrouvailles avec l'innocence originelle de notre corps sponsal, grâce précisément à une recréation de Dieu en nous, eh bien, c'est ça qui va faire l'objet de tout l'enseignement du pape à partir de septembre, du pape Carole, à partir du septembre 1979. Donc si vous avez l'occasion, évidemment, vous pouvez bien sûr lire l'intégralité de cet enseignement du pape, ça je tout à fait. Oui, c'est sûr, c'est très 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 intéressant. C'est très bien. Justement, voilà, il y a 450 pages, quoi. Hein. Et c'est... Thanos, hein. On n'a pas l'habitude, c'est vrai, on n'a pas l'habitude d'attaquer ce problème. Pourquoi ? Parce que ce problème, normalement, est, je crois que c'est vrai de dire qu'il est tabou. Il a été, au fond, appréhendé dans l'histoire de la philosophie, de la théologie, de la mystique, pratiquement jamais, sauf sur l'angle du péché. Mais jamais sous l'angle de la nature. Donc, nous ne savons pas, à cause, il y a quelque chose de tabou, si vous préférez, la honte qui est liée à la différenciation masculine et féminine, parce que toujours, 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 toujours mal vécu, c'est pas quelquefois, mais toujours mal vécu, à cause de ça, il y a une honte qui empêche qu'on en parle. Alors c'est à nous s'arranger, on n'a pas l'habitude, et à cause de ça, le Saint-Père, le pape Wojtyla, va prendre des précautions. Des précautions. Pourquoi ? Parce que quand on attaque ce problème, les sources de la culpabilité profonde depuis les origines, hein, notre naissance, hein, pas seulement depuis qu'on est adolescent, hein, remontent à la surface et font qu'il y a comme une espèce de, comme dans l'évangile d'aujourd'hui, la semence tombe de la parole de Dieu dans nous et puis on entend mais on ne comprend pas. On a des yeux pour lire le texte, mais on ne voit pas. Et finalement, ça tombe sur quelque part des cœurs, des corps qui sont des cœurs de pierre, des corps pétrifiés, qui ne sont pas des corps libres. Et du coup, la semence de la révélation de Dieu sur ce sujet sèche, ne trouve pas sa racine. Alors bien sûr, on peut le lire, parce que si on a le temps, mais c'est, je reconnais avec vous que c'est pas facile, on me dit toujours, on dit, cette responsabilité, c'est pas commode. Pourtant, c'est relativement simple, évidemment, comme toujours. Comme toujours, c'est pas du tout compliqué. Voilà, il y a un masculin, un féminin, un petit garçon, une petite fille. C'est un homme, une femme, c'est un jeune homme, c'est une jeune fille. C'est, les choses sont simples, sont simples en soi. Bon, mais il faudrait, ce que je voudrais faire là pendant ces quelques jours, ces quelques méditations, c'est reprendre au fond ce sujet avec la grâce de Dieu en essayant de redire ce qu'a dit le pape Carole. Non pas de manière plus simple, c'est pas ça, mais d'une manière plus vive, parce que vous comprenez que, étant donné le contexte dans lequel se trouvait le pape Carole en 1979, c'était un contexte extraordinairement hostile, hein. Toutes les griffes étaient dehors, et donc il fallait qu'il prenne énormément de précautions intellectuelles, exégétiques, philosophiques, phénoménologiques, etc. Et c'est pour qu'on ne puisse pas lui dire « Ah, voilà, ah, il a parlé de ça, oh, il a dit ça !» Sur certains sujets difficiles, parce que les gens sont très culpabilisés sur ces sujets-là. Et vous savez bien que le sentiment de culpabilité non maîtrisé produit évidemment l'agressivité. Donc c'est sur un sujet sur lequel les agressivités, les critiques sont les plus forts, s'expriment le plus fortement. Donc il a fallu bien sûr qu'ils prennent du temps. Sur lequel le Saint-Père s'est arrêté, parce que c'est peut-être ça qui l'a motivé à un moment donné, il a dit comment ça se fait qu'on ait honte d'aimer en entier, d'aimer pleinement. Pourquoi est-ce qu'il y a cette honte? Et aussitôt, il a bien, comme nous, senti que cette honte d'aimer en plénitude était inscrite dans le récit de la Genèse. Parce qu'à un moment donné, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis ils ont eu honte. Parce que ils ont vu qu'ils étaient nus. C'est pas parce qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils ont eu honte. C'est pas parce qu'ils ont péché. C'est parce qu'ayant péché, ils ont vu qu'ils étaient nus. Adam et Ève sont nus. C'est-à-dire qu'avant qu'ils ne se soient vus dans cet état de nudité extérieure, ils ne se voyaient pas nus.
Il voyait autre chose. Il voyait autre chose que la nudité. Il ne voyait que la signification sponsale du corps. Et lorsqu'on voit la signification sponsale du corps sans voir la nudité du coup ne se voit plus. Enfin, c'est ce qui est bien évident. Donc avant qu'il y ait cette vision de la nudité extérieure, de la différenciation sexuelle, avant qu'il y ait cette honte, ils n'avaient pas de honte. Et ils n'avaient pas de honte parce qu'ils avaient une connaissance d'eux-mêmes et une connaissance de l'autre à travers le don d'eux-mêmes qui faisait qu'ils ne pouvaient pas voir la nudité extérieure de l'autre, ni leur nudité extérieure propre. Pourquoi ? Parce qu'ils se voyaient à l'intérieur d'une lumière qui était une lumière d'innocence, une lumière d'innocence originelle, qui faisait que cette innocence originelle était portée par la lumière surnaturelle de la grâce, qui faisait que leur vision était à la fois virginale, limpide, totale, plénière, sur la création du monde. Et que la signification sponsale de leur corps, le fait qu'ils soient masculins ou féminins, jouait un rôle extraordinairement important pour comprendre et pour voir la création du monde. Le fait d'être masculin et féminin, lorsqu'on est, j'allais dire, dans l'innocence divine originelle et porté par la grâce de la présence créatrice de Dieu, fait que, à cause de cette masculinité, à cause de cette féminité, fait que du coup il y a une vision, une compréhension, une pénétration et une maîtrise aussi de ce que du monde entier, de la création tout entière. Et du coup, il y a une intégration. Pourquoi ? Alors justement, et c'est là que le pape a fait beaucoup de... Il nous a beaucoup, très très magnifiquement expliqué comment Dieu a voulu que s'exprime la masculinité et la féminité en dehors du péché. Et ça, je tiens à vous dire que ça n'a jamais été expliqué, enseigné, révélé. C'est vrai, je crois ne pas me tromper en disant qu'il est le seul, le premier à avoir développé une spiritualité qui permet de retrouver cette vision sponsale de la création. C'est pour ça que c'est bien quand même de faire mémoire, puisqu'on vient de perdre le pape, Carole, de faire mémoire de ce qu'il nous a donné. Quoi. Si vous voulez lire quelques passages sans avoir à lire tout, vous pouvez lire quand même le message d'octobre 1979, où il explique comment l'homme se retrouve seul face avec son corps et à travers son corps dans cette solitude vivante du corps en Dieu, dans l'unique présence créatrice de Dieu. Comment il perçoit cette solitude comme une image de Dieu et il voit qu'il est une ressemblance de Dieu parce qu'il est seul devant la création. Il est seul à connaître avec Dieu qui connaît cette création à travers lui et lui qui connaît Dieu à travers cette création et il reçoit cette création. Et en même temps, il ne perçoit pas dans cette création de quoi se donner entièrement. Un petit peu comme Dieu du reste qui face à la création ne peut pas se donner entièrement à la création puisque la création est infiniment moins que lui. Et l'homme, dans cette solitude, perçoit cette détresse, si je puis dire, de Dieu, qui ne peut pas vivre cet amour sponsal vis-à-vis de sa création, puisque la création n'est infiniment moins que lui. On ne peut se donner qu'à celui qui est en affinité, en complémentarité sponsale avec vous. Et le Saint-Père va expliquer comment ça se passe, que tiens, je suis masculin, je suis féminin, et lorsque je suis pleinement Dieu et dans la création et que quand cette solitude vivante je m'épanouis dans la dimension du don que Dieu me fait d'être moi-même, du don que Dieu se fait de lui-même en moi, et en même temps du don de la création à moi et du don de moi-même à toute la création, cette dimension de solitude vivante ne me satisfait pas. Parce que je suis masculin ou parce que je suis féminin. Le fait qu'il y ait la différenciation sexuelle fait qu'il y a une insatisfaction qui s'exprime par ce sentiment de solitude originel. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le fait qu'on ait été créé masculin ou féminin, vous voyez, au début, le premier récit de la Bible, on a l'homme, mais il faut attendre que Dieu sorte la côte d'Adam pour souffler dessus et créer la femme, pour qu'il puisse appeler l'homme Ish et la femme Isha. Mais l'homme n'est appelé Ish et Isha qu'à partir du moment où, dans le deuxième chapitre et le troisième chapitre, Dieu crée la femme. Avant, il n'est pas Ish et Isha. Il est homme. Il est homme, homme ou femme. Eh bien, quand Dieu nous crée homme, eh bien, il nous crée à son image et à sa ressemblance. Il est un. Et il nous crée pour être, il nous donne tout, il nous donne toute la création, il se donne lui-même à nous, nous sommes tout donnés à lui. Et nous nous recevons comme un don de Dieu, et nous recevons tout comme don, et ceci à cause de la différenciation sexuelle. Parce que la différenciation sexuelle montre bien, même si je le perçois plus aujourd'hui, mais me montre bien, et là je le perçois de manière très très excessive, très 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 ouverte, enfin très vaste, dans l'innocence originelle, moi Adam ou Ève, je le perçois de manière très 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 vaste, très très très, très intensive, sans d'ailleurs que ce soit une souffrance, hein, pas du tout, c'est pas du tout une souffrance, c'est une joie. Je découvre que je ne suis pas fait pour moi-même. Parce que si je ne suis pas à moi tout seul, tout l'homme, je suis seulement Ish ou Isha, je suis inscrit par mon corps dans la différenciation spontanée, je vois donc comme une espèce de cri silencieux, comme un cri divin aussi, comme un cri surnaturel et comme un cri incarné, que je suis fait pour être entièrement donné à un autre, entièrement donné à l'autre, entièrement donné à l'univers, entièrement donné à la création, et entièrement être dedans. Mais donc cet appel est un appel joyeux, c'est une joie d'exister, la joie d'exister vient de là. Et ça, vous vous lirez ça dans ce que le pape explique, Carole expliquait en septembre et en octobre 1979. Il explique ce que c'est que la signification originelle de la solitude sponsale. C'est très beau. C'est très beau et en plus c'est facile, parce que franchement, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller un petit peu, 2, 3, 4 jours dans la nature tout seul, de respirer avec les arbres, avec les sangliers, avec les oiseaux, le soleil, la lune, et puis laisser librement s'épanouir, j'allais dire, cette création de Dieu dans notre innocence originelle, avec en plus la grâce de Jésus. Bah, écoutez, je m'excuse, mais automatiquement, voyez, ça y est, vous verrez que si vous êtes dans la signification sponsale de la femme, vous n'êtes pas dans la signification sponsale de l'homme. Hein. Ça, dans la nature, il n'y a pas de doute. Hein. C'est sûr, il y a la signification sponsale de la solitude s'exprime de manière véritablement extraordinaire. Dans la soif, hein, et dans la découverte que tout seul, je suis, je n'existe pas. Je suis un être de don, et je suis un être fait pour être entièrement livré et donné. Et c'est extraordinaire que la différenciation sexuelle joue un rôle si important de ce point de vue-là. La signification sponsale de la solitude est une signification joyeuse parce que c'est un appel, hein. C'est un appel, une découverte, que je suis un être fait pour être entièrement donné, pour me livrer. Saint Paul d'ailleurs reprend ces passages, c'est cette idée en disant, voyez, le Christ, notre époux, s'est livré pour nous. Il s'est livré pour nous dès qu'il s'est trouvé dans la signification sponsale de tout seul, comme rédempteur. Et oui, mais cette solitude vivante, c'était automatiquement son incarnation, cette solitude, il est unique dans sa solitude vivante de Christ, de Messie, du monde, d'onction, de la création, et ben, aussitôt il découvre la joie de se livrer totalement. C'est pourquoi l'incarnation est immédiatement liée à la rédemption. Et il s'est livré en se livrant totalement. Il s'est livré pour épouser son corps mystique, qui est l'Église, et à travers l'Église toute la création. La création, j'allais dire, l'humanité tout entière, portant elle-même la création dans la signification sponsale de son don, ben voilà, il s'est livré pour elle et il l'a intégré dans la signification sponsale de son corps rédempteur. La relation qu'il y a entre Jésus et nous, c'est une relation sponsale. Jésus s'est livré à nous. Il s'est livré à l'humanité. Il a découvert cette humanité sortie de son côté. Il s'est livré totalement à elle. Jésus a découvert dans le sein de sa mère qu'il était un être, qu'il était dans son humanité, qu'il était un être fait pour être entièrement livré, entièrement donné. Et il s'est livré sous ce mode-là parce que il est l'époux de l'Église, il est l'époux du corps commun appelé à l'accueil et au don de toute l'humanité et de chacun d'entre nous en particulier. Il y a un autre passage de l'enseignement qui a duré quand même 5-6 ans que je vous recommande si jamais vous avez accès au texte. C'est ceux de février 1980, vous avez le passage du 6 février, remarquable, du 20 février aussi, qui est vraiment extraordinaire parce que le pape Carole a eu vraiment une acuité dans la prise de possession, la connaissance, la contemplation de Dieu à travers le corps que je ne crois pas avoir trouvé ailleurs, moi personnellement. Hein. Ces passages donc, du 6 février, du 20 février 1980 sont admirables. Peut-être une fois je vous les lirai parce qu'ils sont magnifiques, hein. ils sont très beaux. Ils montrent à quel point l'homme est capable de vivre l'échange de l'accueil et du don dans la signification sponsale de son corps masculin et féminin, de manière, dans une virginité surnaturelle tellement grande que j'allais dire, il n'y a plus, comme dit Jésus aux Sadducéens, il n'y a plus ni homme ni femme, comprenez ? Au ciel, il n'y a plus ni homme ni femme. Pourquoi ? Parce que la virginité surnaturelle dans l'échange de l'accueil et du don est tellement grande que du coup la masculinité et la féminité, ben, la différenciation sexuelle joue pleinement son rôle. Oui. Si je suis aveugle, le médecin va regarder mes yeux. Mais dès que je suis plus aveugle, c'est mes yeux qui voient. Et le médecin n'a plus besoin de regarder mes yeux. Mes yeux voient. C'est ça, vous voyez, donc quand mes yeux sont aveugles, sont abîmés, alors le médecin, c'est-à-dire moi, la religion, la grâce, la confession, les sacrements, regarde mes yeux et puis... Mais à un moment donné, la signification sponsale de mon corps, ça y est, elle voit. Alors du coup, il n'y a plus de nudité, il n'y a plus de honte. Dès que je suis guéri dans la signification sponsale de mon corps, et c'est ce que fait Jésus par la rédemption, je vais dire, bon, voilà, j'ai retrouvé quelque part l'odeur de mon innocence originelle dans la signification sponsale du fait que je sois homme ou de ce que je sois femme. Et en même temps, je suis dans la pleine rédemption du Christ, puisque j'ai été jusque dans la grâce. La grâce a surélevé cette innocence originelle de ma différenciation sexuelle, du fait que je sois homme ou femme. de manière telle que ça a été jusqu'au mariage. Oui, dans la septième demeure, ça a été jusqu'au mariage. Donc évidemment, par l'oraison, l'union transformante, la grâce, a transformé tellement mon âme, mon esprit, que ça a aspiré mon corps de manière tout à fait intérieure, et que mon corps a retrouvé sa signification intérieure, et donc sa signification de personne, sa signification spirituelle, sa signification de grâce. Et du coup, je prends pleinement possession de ma personne. C'est pour ça que c'est pas idiot, vous voyez, de parler de la signification constante du corps après avoir parlé de l'Apocalypse qui jette le cri de l'époux, de l'épouse et du Saint-Esprit pour dire viens, et ce viens s'exprime dans l'oraison jusqu'à la septième demeure de l'union transformante, et dans le mariage spirituel, je peux revoir, je peux retrouver la signification constante de mon corps. Et donc, à ce moment-là, exclut toute honte, toute culpabilité. Pourquoi ? Parce que j'ai repris possession, pleine possession, de cette puissance du don de me donner à travers le corps. Voilà. Ça fait une introduction un peu compliquée, mais... C'est pas compliqué. Je tiens à vous dire, c'est pas compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'ose pas parler de ça. Un sujet, les théologiens, vous comprenez, souvent ce sont des prêtres. Les prêtres, ils se sont donnés à Dieu dans le célibat. Donc, quelque part, ils sont fidèles à Dieu dans le célibat et ils ne veulent pas trop regarder cette histoire de différenciation sexuelle. Parce que si tu regardes trop la différenciation sexuelle, étant donné qu'il y a encore les séquelles du péché originel, ça perturbe, j'allais dire, leur fidélité. Ils préfèrent se donner entièrement à Dieu dans le don d'eux-mêmes, dans le sacerdoce. Vous voyez ? Ce qui est normal. Alors du coup, ils préfèrent pas trop regarder ces choses-là parce que pour les exprimer, c'est pas commode, hein, c'est sûr. Hein, puisque on est obligé de passer à travers la purification. De rentrer dans la contemplation de la signification spontanée du corps, nécessairement, ça va soulever les choses en nous, et donc ça va nous purifier de ce qui est un petit peu perturbé dans l'innocence virginale, surnaturelle, originelle de notre corps masculin ou féminin. Et du coup, ça va produire des perturbations passagères, involontaires. Et du coup, c'est vrai, notre imaginaire, de temps en temps, va nous perturber. Ça, c'est pas grave, mais ça, tant mieux. Je veux dire, non, c'est pas tant mieux, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il faut y aller, bien sûr, avec la prudence de la vie contemplative, et avec la parole juste, l'acte juste, et la pensée juste. C'est pour ça qu'il ne faut pas blâmer, je veux dire, l'Église de ne pas en avoir parlé avant. Il a fallu attendre le pape Carole parce que bon, bah, lui, je veux dire, il l'a fait de cette manière, et il l'a fait de manière que apprendre le texte de la Sainte Écriture, et en particulier le texte de la Genèse. Si je veux retrouver pleine possession, maîtrise de toutes les forces extraordinaires que le corps donne à l'âme spirituelle de l'homme pour se donner. Oui, parce que si vous avez une âme spirituelle sans le corps, vous ne pouvez plus vous donner. Vous voyez, par exemple, après la mort, vous ne pouvez plus vous marier. Et ça a l'air idiot, oui, c'est ce qu'on dit dans le sacrement de mariage. On dit, vous êtes marié jusqu'à la mort de l'un des deux. Le mariage est un sacrement qui nous lie surnaturellement, sacramentellement, de manière indélébile jusqu'à la mort de l'un des deux. Pourquoi ? Parce que l'âme spirituelle sans corps ne peut plus se donner. Le corps sert à centupler le don. Le corps sert à non seulement concrétiser, incarner, mais aussi à diviniser le don, à surnaturaliser le don, à intégrer toute la création dans le don. Et c'est uniquement à cause du corps. L'âme spirituelle, voyez, n'est pas capable d'intégrer la création. C'est le problème de Lucifer. C'est le problème de Lucifer. La révolte angélique vient de là. Il y a dans le corps une capacité, justement, en raison de cette Le corps est créé comme Dieu, à l'image ressemblance de Dieu. Le corps humain, hein, le corps humain, le corps spirituel de l'homme, est créé image ressemblance de Dieu parce que Dieu, lui, il est don de lui-même. Et il est accueil de lui-même. Don de lui-même, c'est le Père. Accueil de lui-même, c'est le Fils. Et l'échange du don et de l'accueil, c'est l'Esprit Saint. Et notre corps est créé à l'image ressemblance de Dieu. Le corps humain, hein, le corps humain, s'il est vivifié, pleinement habité par l'âme spirituelle de l'homme, dans la grâce de Dieu, dans la présence créatrice de Dieu, alors à ce moment-là, le corps est don de lui-même. Le corps est accueil. Et le corps est échange, et le lieu de l'échange et de l'accueil du don de Dieu, de la très sainte Trinité, de la création, de l'autre et de soi-même. Sans le corps, il ne peut pas y avoir de don. Il ne peut pas y avoir d'échange de l'accueil et du don de l'autre. Et c'est la différenciation sexuelle qui inscrit cette puissance, j'allais dire, dans le corps de l'homme, que n'ont pas les animaux. Pourtant, il y a chez les animaux zaka ou nekeva. Il y a bien mâle et femelle chez le monde animal. Et il n'y a pas cette puissance de don et d'accueil du don. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de signification sponsale dans le corps animal, le corps sensible. Il faut pour ça que le corps soit spiritualisé dans la présence de Dieu qui fait qu'il est présent par la grâce et qu'il fait de ce qu'il est, lui, Dieu, don et accueil de soi-même dans le don et échange de don et d'accueil. Il fait que le corps de l'homme est comme lui. Ce qui n'est pas le cas dans le monde animal. Parce que Dieu ne crée pas la femelle du lapin. Parce qu'il crée l'homme et la femme. Et donc le corps n'a pas la même signification dans la différenciation mâle et femelle, dans l'animal et dans l'homme. Pas du tout. Pas du tout la même signification. Alors voilà le glissement qui s'est fait, parce que dans l'arbre, dans le paradis, de la création originelle, il y avait des arbres. Et la signification archaïque de ces arbres, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sont là pour nous faire comprendre que avec le serpent qui se met dessus en plus, sont là pour nous faire comprendre qu'une tentation peut jaillir qui fait que je peux, la tentation porte sur le fait que je peux vivre de la signification sponsale de ce que je suis comme être de don et d'accueil du don, comme image ressemblance de Dieu pour la création et dans la création, comme accueil de la création, et du coup, dans la création, accueil de Dieu, la création à Dieu et de Dieu dans la création, dans la solitude vivante de mon corps plein de grâce, je peux, c'est ça la tentation de l'arbre, je peux m'éloigner un peu de Dieu. Je peux séparer ce que je suis de la signification sponsale du don, puisque je prends l'arbre. Vous voyez la différence entre recevoir et puis prendre. Je ne fais aucune allusion, n'est-ce pas? C'est dit que c'est ce que dit Jésus. Hein. Jésus dit accipiter, recevez, être mendicaté et mangez en tout. Et certains ont traduit « prenez et mangez-en tous ». La différence entre recevoir, et c'est extraordinaire de faire des traductions fausses comme ça. Et prendre. Et si tu prends, tu te sépares de l'origine du don, et donc de la grâce originelle. Donc le Saint-Père lui dit « attention ». Cette séparation, cette petite séparation de Dieu qui fait perdre à l'homme la connaissance du don qu'il est et la pleine possession de son don à l'autre dans la communion des personnes. Il n'est plus capable de vivre dans la plénitude du don et l'accueil, la réciprocité du don, la communion des personnes. Parce que du coup, il perd aussi une certaine connaissance du don, et du coup, la signification responsable de son corps est perturbée, et du coup, il voit qu'ils sont nus. La connaissance de la nudité extérieure est en fait une perte de la connaissance intérieure du don. Dans la création originelle, comme dans une création normale, si par exemple, dans Faites oraison, vous arrivez au septième demeure de l'union transformante, quand vous serez au septième demeure, c'est-à-dire presque tout le temps, de l'union transformante, quand vous êtes dans le mariage spirituel, c'est le Père et l'Esprit Saint qui sont les deux lumières intérieures qui vous font voir à quel point vous êtes entièrement reçu et à quel point le Verbe, le Christ, se donne entièrement, il se livre entièrement à travers vous à toute la divinité de Dieu. Et ça, vous le voyez. Et donc, vous ne voyez plus rien de votre nudité. Parce qu'il le fait différemment dans la signification sponsale du corps, d'un corps masculin, et dans la signification sponsale d'un corps féminin. Et dans le mariage spirituel de l'oraison, il est bien évident que si vous dites sinon, à chaque fois que je fais oraison, j'ai honte parce que je vois que je suis tout nu. C'est qu'il y a un problème, c'est que vous n'êtes pas encore au mariage spirituel. Il y a une connaissance, il y a une connaissance de soi dans la lumière plénière de Dieu dans le mariage qui fait que le corps est redevenu lui-même. Lorsque Adam et Ève, lorsque le premier homme, lorsque l'homme et la femme sortis de la main créatrice de Dieu étaient mutuellement en présence l'un de l'autre et qu'ils étaient tout accueil mutuel l'un de l'autre parce que Dieu, du dedans d'eux-mêmes, se voyait à partir de ce qui illuminait le don intérieur du corps et de toute la personne de l'autre à travers l'accueil qu'il en faisait dans son propre don. Bon, c'est toute une spirale. À ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? Le corps transfiguré, bien sûr, le corps transfiguré était transfiguré de l'intérieur. La signification sponsale, la masculinité, et se voyait était une lumière intérieure de cette masculinité. La féminité était une lumière intérieure qui rayonnait, transfigurait l'intérieur de la féminité, pas l'extérieur. Et cette lumière est si forte dans l'intérieur, celle qui fait la jonction de l'âme, de l'esprit et du don de Dieu dans le corps masculin et féminin, cette lumière est si forte, vous comprenez, elle est si forte qu'on ne peut voir qu'à travers cette lumière. Si cette lumière s'éteint, il ne reste plus que la lumière du corps extérieur. Et c'est ainsi qu'ils virent qu'ils étaient nus. Mais le fait qu'ils voient qu'ils étaient nus et qu'ils en avaient honte, c'est pas parce que c'est honteux d'être masculin ou féminin, du point de vue de la nudité, mais c'est parce qu'ils ne voient plus leur corps tel qu'il est dans la lumière originelle. Ça veut dire qu'ils ont perdu la connaissance originelle du corps. Voilà ce qu'explique le pape Carole. Nous avons perdu la connaissance originelle du corps. Et donc, quiconque a une vocation à aimer et à se donner entièrement, c'est-à-dire une vocation humaine, doit se situer dans cette tension qu'il y a entre l'innocence originelle de cette connaissance sexuée de l'image ressemblance de Dieu qui est en nous et celle du mariage spirituel, de l'oraison, de l'union transformante. On est dans cette tension entre les deux. Nous sommes après le péché originel. Et donc, nous situons sur un seuil, comme dit le pape Carole. Nous devons nous situer, quand nous regardons ce que nous sommes, du point de vue de la féminité et de la masculinité, je suis un petit garçon, je suis une petite fille, on doit se situer sur le seuil. Je suis créé par Dieu dans l'innocence originelle pour être donné entièrement à Dieu, entièrement à l'ordre, entièrement à la création, et entièrement à un autre que moi-même, et livré entièrement à lui. Et jamais pour moi-même. Ça, c'est l'innocence originelle. Je peux avoir quelquefois cette espèce de grâce actuelle qui fait que je vois ce que c'est. On l'a quelquefois d'ailleurs quand on est enfant.
On a, vous voyez, par exemple, lorsque on se trouve dans un état de grâce, de lumière, d'admiration, à l'intérieur de la création, quelquefois on a ces grâces-là, vous voyez, au milieu de la nature, ou au milieu de la montagne, ou au milieu de la mer, ou au milieu d'un champ de fleurs, et on se dit, mais jamais personne n'a vu la beauté si splendide de ce que je vois en ce moment, jamais personne. Il y a des moments où il y a de la grâce de Dieu, nous illumine tellement, qui fait qu'on voit la beauté que d'ordinaire on ne voit pas. Et ces grâces-là, qui n'a pas eu cette grâce-là? Tout le monde a eu cette grâce-là, je suis sûr, moi. Enfin, je ne sais pas. Mais tout le monde a eu cette grâce-là au moins une fois, ou alors on ne s'en rappelle plus. Mais normalement, on s'en rappelle. Parce que, bon, et bien à un moment donné, on voit que Dieu nous donne une grâce qui fait qu'on voit que personne ne voit comme nous voyons la beauté de toute chose. La beauté de ce que nous sommes. Et alors il y a une gratitude, une admiration, un étonnement. Une ouverture. C'est quelque chose qui vient de la grâce et qui nous fait retrouver cette vision de l'innocence originelle, de cette présence à la création, comme quelque chose qui nous est donné à nous personnellement. Et que nous sommes donnés personnellement à toute la création et qu'à travers ça, Dieu s'est donné à nous. Et Dieu se donne à nous. Qui n'a pas eu cette grâce-là? C'est une grâce qui participe, qui est une petite étincelle, si je puis dire, de cette grâce originelle, du premier homme, de la première femme, qui vivait intensément cette plénitude du temps. Mais dans la différenciation Ishar, dans la différenciation de l'homme et de la femme, qui était la leur, il percevait aussi que cette extraordinaire existence, cette extraordinaire admirable grâce a été faite pour qu'ils se retrouvent tous les deux en se livrant chacun entièrement à l'autre dans la communion des personnes. Et ils ont découvert, et ils découvraient dans cette communion mutuelle des deux, avec la même intensité, même centuplée que celle dont je viens de vous parler, ils découvraient la signification responsable de leur unité. Et là, vous lirez le passage admirable du printemps 1980 du Saint-Père sur la signification responsable de l'unité dans la communion des personnes. Comment le premier homme et la première femme, c'est-à-dire tout homme et toute femme normale, devraient vivre avec intensité cette intériorité de l'unité, de complémentarité des personnes à travers le corps différencié sexuellement. C'est sûr qu'une union, une communion des personnes entre l'homme et la femme qui ne se vit pas dans une virginité d'innocence surnaturelle plénière ne peut pas découvrir cette unité dans la communion des personnes, dans la signification sponsale du corps. Mais néanmoins, on peut la contempler. Et c'est ça qui est beau, parce qu'à travers la révélation, ça nous est redonné comme un objet de contemplation. Et vous savez qu'on devient ce qu'on contemple. C'est-à-dire, si vous vous entraînez avec le petit copain du lycée, etc., vous verrez que vous n'en aurez pas la connaissance. Mais par la contemplation, oui, vous pouvez contempler ce que, dans la main de Dieu, la plénitude surnaturelle, centuplée de la féminité, à travers vous, vous pouvez le vivre, si vous êtes femme, se réaliser dans la plénitude de l'abandon, dans l'accueil qu'en faisait celui à qui elle était entièrement livrée, et qui du coup se livrait lui-même à son tour pour réaliser l'unité spontanée, et réaliser dans l'unité cette apparition de la communion des personnes dans la plénitude de la signification sponsale du corps masculin et féminin. C'est un objet de contemplation, c'est-à-dire, si je le regarde, je peux prier avec ça. Je peux très bien contempler Dieu agissant dans la grâce du corps masculin et féminin, du premier homme et de la première femme.
C'est ce que propose le pape Carole en nous donnant cette méditation. Pour qu'on puisse nous-mêmes, l'ayant contemplé, retrouver la semence. Parce que la révélation vient du Christ, hein, vous le savez. La révélation de la Genèse vient du Christ. Hein. La Genèse a été dictée, la Torah, la Genèse, l'Exode, Lévitique, a été dictée. Vous savez, quand Moïse a fait sortir le peuple d'Israël, d'Égypte, ça a duré 12 000 jours quand même, hein, 40 fois 365 jours. Tous les jours, sous la tente de réunion, Moïse sortait, rentrait dans la tente de réunion. Et quand il était rentré dans la tente de réunion, il y avait aussi Yahushua qui était là, son petit scribe, son petit disciple. Jésus, Josué, c'était son disciple. C'était son petit pioupiou. Et ils rentraient ensemble dans la tente de réunion, quelquefois avec Aaron, etc. Et à l'entrée de la tente de réunion, il y avait la nuée glorieuse du Messie. Et Jésus était donc dans l'entrée de la tente, et tout le peuple d'Israël pouvait le voir. Le Messie parlait à Moïse et lui donnait la Torah. Dans ce qui nous est donné dans le livre de la Genèse, nous est donné par le Messie. C'est le Messie qui, d'après notre tradition, a donné, le Christ a donné. Faut pas s'en étonner, le Messie est venu 1300 ans plus tard, d'accord. Mais attends, Abraham aussi a vu le Messie, Jésus l'a dit, Abraham m'a vu. Et il s'en est réjoui. Le Messie, il est venu et il se montre à nous après lui. Mais il s'est montré à nous avant lui. Pourquoi? Mais parce que le Messie, c'est l'hypostase de Dieu. Si le Messie n'est pas Dieu, il ne pourrait pas se manifester à Israël. Mais comme le Messie est Dieu, il peut se manifester à Israël. Le Christ est Dieu. Et Israël, avoue, enseigne, proclame que c'est le Messie qui leur a enseigné la Torah à travers Moïse. Et que le Messie, c'est l'hypostase de la deuxième... c'est la manifestation vivante de Dieu dans la deuxième hypostase du nom d'Élohim. C'est enseigné, vous savez, dans la Mishnah d'Israël. C'est intéressant de savoir que finalement, cet enseignement de la Genèse nous est donné par Jésus, à travers Moïse. C'est le Christ qui nous a donné cet enseignement. Lui qui est l'Adam parfait, qui retrouve la grâce en plénitude, mais de manière cette fois-ci surnaturelle et chrétienne, avec la plénitude du mariage spirituel de l'oraison, pour nous. Et du coup, il redonne le récit de la Genèse à Moïse, à travers ça, voyez, c'est à travers lui qu'on le reçoit. Donc je peux tout à fait contempler dans la présence divine de la grâce chrétienne, de la grâce du Messie, de la grâce du Verbe éternel de Dieu, tout immergé du Saint-Esprit dans le sein du Père, mais dans l'incarnation de son corps ressuscité, je peux très très bien aller retrouver le premier récit de la création et contempler, voir, vivre ce que Dieu vit dans le corps d'Adam et Ève, dans la communion des personnes. Et je peux le contempler. Donc vous lirez peut-être, mais si vous en êtes capable, vous lirez cette méditation qu'en fait Pape Carole, par exemple, le 6 février 1980. La communion des personnes réalise la plénitude de l'image-ressemblance de Dieu dans l'échange de l'accueil et du don. C'est le titre de son discours. C'est admirable. C'est admirable. Et effectivement, on voit comment Dieu se réalise à travers l'homme et la femme, ni dans l'homme ni dans la femme, mais au cœur de la communion des personnes, dans le nid de leur unité sponsale, pour réaliser un corps qui n'est ni homme ni femme, mais qui est celui de l'humanité tout entière, pleinement image, ressemblance de Dieu, dans l'échange et l'accueil du temps. Cet amour-là ne peut pas diminuer. cet amour-là, humainement, ne peut pas diminuer. Il n'y a pas de cause diminuante dans cet amour-là. Dans un amour qui est embarqué dans la honte, dans le séquelle du péché originel, dans l'instinct sexuel. Si c'est l'instinct sexuel qui domine et pas la signification responsable du corps, alors c'est sûr que l'amour va diminuer. Et au contraire, il va être très, très, très destructeur. Et on ne pourra réaliser, malheureusement, que à travers, finalement, quelque chose que l'Écriture considère comme un adultère, on pourra réaliser que la production des enfants. Mais c'est tout. Ben, c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas la finalité de la signification sponsale du corps masculin et féminin. La finalité de la signification sponsale du corps masculin et féminin, c'est qu'il y ait cette plénitude du don et de l'accueil du don qui est avant la création du monde en Dieu, et que Dieu puisse se réaliser, se retrouver dans l'échange de l'accueil du don de l'homme et de la femme pour eux-mêmes, voulu pour eux-mêmes. Dans la plénitude de la signification sponsale de leur solitude. Et pour ça, il faut bien sûr que l'homme qui a atteint la plénitude de la signification sponsale de sa solitude habitée puisse assumer de l'intérieur la plénitude de la signification sponsale de la solitude habitée de la femme. Vous sentez qu'il faut une... Il ne faut pas être hippopotame pour ça. L'hippopotame ne peut pas faire ça. Une délicatesse, une finesse, une innocence, une liberté, une puissance, une force intérieure. De sorte que finalement, cette méditation qu'on pourrait faire dans les prochaines fois reviendrait à dire, voilà, il y a quelque chose qui est honteux dans la nudité. Voilà pourquoi d'ailleurs il faut rester très pudique, il faut garder une pudeur, une certaine pudeur, une certaine. Mais il y a aussi une fausse pudeur. Il faut regarder la masculinité, la féminité dans le corps, à condition de la regarder de l'intérieur de son illumination. Il y a quelque chose qui illumine de l'intérieur, qui fait vivre la masculinité. Alors du coup, elle t'aspire dans la signification sponsale du don. Tandis que s'il n'y a plus cette connaissance de la masculinité vue dans la lumière du don de Dieu et de sa présence, à ce moment-là, il n'y a plus d'aspiration, et du coup, il y a l'instinct. Et l'instinct n'est rien d'autre que la perte de la connaissance de Dieu dans mon corps et la perte de la connaissance de moi-même dans mon propre corps parce que je me suis séparé de Dieu. De sorte que la connaissance de Dieu est l'impuissance. La perte de la connaissance de Dieu et l'impuissance sexuelle sont directement liées. Si je perds la connaissance, cette vision de Dieu pour lui-même jusque dans ma chair, je deviens impuissant. Le centuple de la semence de la parole de Dieu dans la signification sponsale de mon corps masculin ne peut plus opérer. C'est voilà pourquoi Dieu nous a redonné, a donné la femme à a donné une femme, a fait sortir de l'homme une femme pour que la voyant, il dise « Ah, voici l'os de mes os, la chair de ma chair » qu'il retrouve cette intériorité dans sa source. Oui. Alors, la première chose que je personnellement, j'aurais beaucoup aimé que le Seigneur nous aide à faire dans ces méditations qui vont venir. C'est premièrement essayer de proposer quelque chose qui fait qu'on n'aura plus peur d'être masculin ou féminin, voyez, enfin d'être homme ou femme. Sans que ce soit, vous voyez, il ne faut pas que ce soit non plus la grimace de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est normal, c'est de nature, alors on y va. C'est le péché aussi, c'est comme ça. Bah, attends, c'est la nature, c'est naturel, on y va, allons-y. Et non, c'est justement pas ça. Non, ça, c'est renoncer totalement à cette espèce de liberté de honteuse, vous voyez, qui fait qu'on s'énerve, puisqu'on ne maîtrise pas le corps, et bien du coup, on se plonge, on se tue. On se suicide encore plus dans la signification sponsale de son corps, et c'est ça le vice sexuel. Le vice, c'est ça. Ah non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de ne pas avoir peur de se retrouver entièrement présent dans la signification du don que Dieu m'a fait pour percevoir que je suis fait pour un autre. Je suis en fait pour me donner entièrement à un autre et à recevoir accueillement en plénitude le don de l'autre et à rentrer du coup dans une nouvelle perspective. Dans une nouvelle perspective qui vient de la grâce et qui fait que nous sommes dans cette communion des personnes, la présence, l'image, la ressemblance de la communion des personnes avant la création du monde en Dieu. Et ça, je peux non seulement le dire, mais je peux aussi le vivre. Après avoir fait oraison, après être rentré avec Jésus, avec le Christ, et avec le corps mystique vivant, entier, je dis bien entier, de Jésus entier, y compris la Jérusalem spirituelle et la Jérusalem céleste, puisque une fois que j'ai intégré ce mariage spirituel jusque dans l'intérieur de toutes les puissances de mon corps masculin ou féminin, et que ce mariage, c'est-à-dire je me suis entièrement donné à ça, et que j'ai entièrement ouvert par la puissance de Dieu les espaces pour accueillir tout le don de la Jérusalem céleste elle-même en moi, vous voyez, à ce moment-là, du Christ total en moi, à ce moment-là, oui, je crois qu'il y a une possibilité pour moi de me retrouver dans mon propre corps. Vous allez me dire, mais ça, c'est quasiment impossible. Oui, mais je peux le faire aussi de manière plus simple. C'est un petit peu ça hein, que je crois qu'il serait bien, quoi. Qu'il serait bien qu'on fasse, qu'on mette quelques petits jalons, quelques petits points ici, à droite et à gauche, pour pouvoir vivre l'intégralité de ce que nous sommes comme centuple de capacité d'amour que ce que nous sommes si nous ne prenons pas pleinement possession de notre signification sponsale du corps. La prise de possession de la signification sponsale du corps est quelque chose de très important pour que le don de la grâce du Christ, le don de la grâce de la création et le don de la grâce tout court, par exemple de l'Eucharistie, soit centuplé dans sa puissance de don et aussi en moi, dans ma puissance d'accueil de ce don. Donc c'est très important, c'est probablement très important que je puisse percevoir au moins un peu où est la signification sponsale de mon corps masculin. Quel est le visage de ma masculinité, de l'intérieur de cette masculinité, illuminée de l'intérieur par la lumière qui la vivifie de l'intérieur pour la faire vivre dans un amour spirituel. Que au moins, si je suis femme, je puisse au moins entrevoir de l'intérieur ce qui me fait voir l'intérieur de l'intérieur, ce qui illumine de l'intérieur, ce qui dans mon corps féminin fait qu'elle est capable de s'abandonner, de se livrer entièrement et d'être une puissance d'amour spirituel sans limite en se donnant. Et pour la signification sponsale du corps, cette capacité qu'il a en assurant la réciprocité du don dans l'accueil de l'autre, de produire, si je puis dire, cette présence. Cette présence du ciel à la terre et de la très sainte trinité, enfin la communion des personnes d'avant la création du monde, à cette unité sponsale mutuelle dans la communion des deux. De percevoir comment, de l'intérieur, le monde physique de mon corps masculin est capable d'avoir cette puissance. Pourquoi ? Parce que le corps est récepteur. Et le corps est multiplicateur et diffuseur.
sait très bien.
Et il faut donc percevoir la manière un petit peu, au fond, différente, peut-être, c'est possible, hein, même c'est pas seulement possible, c'est tout à fait évident, c'est d'arriver à percevoir comment, de l'intérieur, cette masculinité, j'allais dire, devrait vivre, ou même qu'elle vit, parce que quand on est marié à la spiritualité, quand on a raison, je vous assure, qu'il y a une apparition, ou qu'un Saint-Esprit agit en vous, je vous assure que c'est la signification responsable du corps qui se met en branle. Hein. C'est pas l'instinct. Hein. Du coup, il y a une connaissance de vous-même à travers le corps qui fait que vous vivez pleinement de la communion des personnes. Donc il y a un lien, vous voyez, entre l'oraison, le mariage spirituel, et la prise de possession de la signification responsable de mon corps. Je ne sais pas si je pourrais en dire plus. Hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très fort. C'est très très fort, vous savez, on lui doit beaucoup au pape Carole, hein, d'avoir ouvert cette porte-là. On lui doit beaucoup. La deuxième chose qu'il a ouvert, c'est de dire, vous savez, parce que vous savez, le fait que nous soyons hommes, femmes, masculins et féminins, époux, épouse, plus exactement, époux, épouse, c'est ça l'image et ressemblance de Dieu en nous. Et le fait qu'on ait un corps, le fait qu'on ait une âme spirituelle capable de contempler lumière, capable d'aimer feu, capable de vivre et la lumière et l'amour dans une seule hypostase, liberté. On disait de cela, cette triple puissance, c'est ça qui fait qu'on est image et ressemblance de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu, eh ben, il est procession de la lumière, procession d'amour, et il est l'unique liberté de Dieu intime qui unit la procession de la lumière et de l'amour dans une seule hypostase, dans une seule nature. Il y a un seul Dieu, effectivement, il y a la procession du Verbe dans le Père, lumière, la procession du Saint-Esprit dans l'unité du Père et du Fils. Et dans une seule unité de liberté, de perfection, de simplicité. Voilà la liberté de Dieu. Et nous, on a cette capacité de lumière, contemplation, on a cette capacité d'amour, feu, et on a cette liberté ontologique qui permet d'unir la lumière et l'amour en une seule hypostase dans notre personne. C'est comme ça que saint Augustin dit, voilà, c'est ça, l'image de ressemblance de Dieu, c'est ça. Et le pape Carole, lui, il dit, en 80 aussi, 81, il dit, l'image-ressemblance de Dieu est encore plus présente. Il dit bien encore plus présente. Donc il dit, l'image-ressemblance de Dieu dans le livre de la Genèse est désignée comme étant encore plus présente dans la signification sponsale du corps. Dis-nous, il dit ça. Parce que jusqu'à maintenant, tous les pères de l'Église, saint Augustin en premier, évidemment, vont dire, là on est image ressemblant de Dieu, qu'on est contemplatif, qu'on aime de manière pure et qu'on se livre librement à cet amour, par la grâce. Et lui il dit, attendez, il faut que ce soit dans la communion des personnes. Mais pour que ce soit dans la communion des personnes, il faut que le corps soit intégré. Et le corps ne participe à la communion des personnes qu'à travers la signification sponsale du corps. Donc vous êtes ou époux ou épouse dans cette lumière. Ou époux ou épouse dans cet amour, ou époux ou épouse dans l'unité de cette lumière et cet amour éternel, dans l'incarnation de votre don personnel. Et là, quand on est homme et femme, masculin et féminin, on est donc époux ou épouse, époux et épouse. Et de ce point de vue-là, on est ressemblant à Dieu parce que Dieu est époux, Dieu est épouse. Et c'est l'unité de l'époux et de l'épouse, la communion des deux, qui fait la communion des personnes en Dieu et qui explique ce qui est le Saint-Esprit, qui est l'unité sponsale de l'époux et de l'épouse. Le pape n'a pas été jusqu'à dire formellement. Le Père, première personne de la Très-Sainte Trinité, c'est l'Époux. Il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit le Verbe de Dieu, le Fils unique de Dieu, c'est l'épouse. L'épouse, avant la création du monde, c'est le Fils unique de Dieu. Il n'a pas dit ça formellement. Et l'unité de l'époux et de l'épouse, la signification, l'unité sponsale de l'époux et de l'épouse, c'est deux premières, de ces deux premières personnes de la Sainte Trinité, c'est l'aspiration, c'est le don substantiel et personnel qui est l'Esprit Saint. Alors ça, cette phrase, là, il n'a pas prononcée. Mais il a prononcé la phrase qui veut dire la même chose, à savoir que si nous sommes époux et épouse dans la signification sponsale du corps, c'est ça qui fait qu'on est image ressemblante de Dieu, d'une manière, dans une analogie ontologique plus parfaite que l'analogie classique. Qui disait, nous sommes contemplation, amour et liberté qui unit la lumière et l'amour dans cette unique contemplation amoureuse. Parce que si on dit qu'on est image ressemblante de Dieu dans contemplation, amour et unité substantielle de cet amour et cette lumière, l'ange aussi, donc on ne voit pas la différence, l'image ressemblante de Dieu dans l'ange et dans l'homme. Et donc le Saint-Père va dire, on est plus que l'ange. Jésus est plus que l'ange. Pas parce qu'il est Dieu, Marie est plus que l'ange. Parce qu'elle porte la signification sponsale d'un corps féminin, elle est épouse. Et donc elle est plus que l'ange, et elle réalise donc une image ressemblante de Dieu beaucoup plus parfaite que l'ange. Pourquoi ? Parce qu'on est époux et épouse, on a la signification sponsale d'un être, notre existence s'inscrit dans une signification sponsale, comme le Père et le Fils, qui inscrivent leur existence personnelle dans une signification sponsale. Ils s'épousent mutuellement, ils disparaissent l'un dans l'autre, pour ne voir que la lumière de ce feu qui flambe tout dans la nature divine, dans la liberté. Et l'aspiration, c'est l'Esprit Saint. Et ça, c'est la signification sponsale masculine-féminine qui inscrit ça en nous. Voilà ce que l'ange n'a pas. Voilà pourquoi peut-être l'attaque la plus vive de Lucifer sur l'homme, c'est sur le détournement de la signification sponsale du corps masculin et féminin. C'est là-dessus. C'est là-dessus qu'il crache le plus fort, on sent bien. On le sait bien. Dès qu'il sent la grâce venir, allez hop. Une effusion, vous voyez, d'adultère dans l'esprit, dans le corps. Il se précipite pour l'accentuer. On le sent bien, ça. On le voit bien dans le monde aussi. Mais on le sait bien aussi avec nous-mêmes. Nous sommes... Donc, le deuxième point du Saint-Père, c'est, vous voyez, c'est que le fait qu'on soit masculin et féminin jette une très vive lumière non seulement sur nous, sur nous-mêmes, c'est notre manière de vivre en tant que personne dans la communion avec les autres, mais aussi jette une vive, très vive lumière sur le mystère de la très sainte Trinité. Très très vive. Parce que comment comprendre que la deuxième personne qui est l'épouse, le Fils, le Verbe de Dieu, soit l'admiration de la première d'où elle émane de l'intérieur, comme Ève pour Adam, et il se reçoit entièrement de lui, de l'intérieur de sa source, comme le masculin, comme l'épouse et l'époux, quoi. Et tout ça jette une très très forte lumière sur la manière dont se réalise l'unité d'amour des deux premières personnes de la très sainte Trinité pour produire cette espèce de bombardement extraordinaire à créer l'aspiration. Ça, c'est le deuxième point du pape. Le troisième point du pape, sur lequel il faudrait venir aussi, c'est le mariage. C'est que du coup, une fois que vous avez ceci, une fois que vous avez cela, une fois que vous avez la très sainte Trinité, une fois que vous avez la signification sponsale du corps, ah, et comment les deux vont-ils se rejoindre de manière parfaite en nous à travers le sacrement de mariage? Le sacrement de mariage va pouvoir nous obtenir la présence réelle de l'unité des deux. Donc de l'expérience vivante de la signification sponsale du corps dans l'unité des personnes, sur le plan humain, spirituel et surnaturel. en même temps que la présence vivante, surnaturelle, du don des personnes dans la communion mutuelle, de la très sainte Trinité, à l'intérieur même de notre propre sacrement. De manière à réunir le ciel et la terre dans la communion des personnes, et la signification sponsale, à la fois incréée, c'est-à-dire non créée éternelle, et créée dans le sacrement de mariage. Et ce qui fait l'unité des deux, c'est le Christ, la présence réelle de Jésus, qui s'unit en se livrant totalement à elle, la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le corps vivant, glorieux, entier de Jésus, se donnant entièrement à la résurrection, se donnant à la source de sa résurrection, qui est l'hypostase, l'union hypostatique du Christ, glorifié, comme à son époux, réalisant ainsi les portes d'ouverture du sacrement de mariage. Et donc, il y a un troisième point que le pape, d'ailleurs, n'a pas explicité, mais qu'on pourrait expliciter. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est expliciter cette troisième partie aussi, en disant, voilà, on ne peut pas accéder à ce sommet-là de manière explicite, comme ça, quoi. Donc, peut-être qu'il y a des petits échelons. Vous voyez, peut-être qu'il y a une petite marche, et accéder petit à petit à travers le sacrement de mariage. Premier degré de l'union transformante du sacrement de mariage. Deuxième degré de la transformation de notre communion des deux dans le sacrement de mariage. Vous voyez, troisième degré, il faudrait faire les sept demeures de la transformation de notre communion des personnes dans l'échange et l'accueil du don en présence réelle du sacrement. Ce serait beau de faire ça, vous voyez. Déjà, à titre tout simplement indicatif, je vous signale que quand on dit la messe, on célèbre la messe. Vous pouvez suivre toute la messe, vous verrez, au nom du Père, vous mettez en présence de la très sainte Trinité, vous lisez la parole de Dieu, vous chantez les psaumes dans l'admiration, vous lisez saint évangile pour vous mettre en présence du Messie qui parle au Verbe, qui parle à toute la création et à toute l'humanité pour la sauver, l'intégrer dans cette grâce de rédemption, puis l'offrande de l'offertoire, et l'offertoire, où l'Église et Jésus s'offrent mutuellement à Dieu le Père, puis le canon, où il va y avoir la prise de ce que nous offrons dans notre communion mutuelle pour transformer cette communion mutuelle dans la présence vivante, réelle, totale, substantielle de cette communion, et donc la perfection que nous avons essayé de donner est rendue des milliards de fois plus parfaite dans la transsubstantiation, puis après on communie à ce qui nous manque.